89.3.ca et sur toutes les applications de balado.
Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge.
Bien le bonjour tout le monde, il est midi, vous écoutez Bulle d'écoute au 89.3 sur CISM La Marge. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les rênes de l'émission, si vous étiez avec nous depuis le début, vous devez me reconnaître, ou pas, avec ma voix de canard. Ici Maïna, votre animatrice, toujours un plaisir de partager cette heure avec vous, comme chaque mardi. J'espère que vous allez bien, hein, avec le froid qui s'installe doucement sur la région de Montréal. Dites, d'ailleurs, je serais curieuse de savoir d'où vous nous écoutez. Est-ce que vous êtes dans votre auto? Vous êtes au travail? Chez vous? Partagez-nous vos moments d'écoute sur Instagram. Envoyez-nous un petit message au bulle-d'écoute.officiel. Dites-nous, comme à chaque fois, on retrouve nos chroniqueurs bien en forme pour plein de sujets différents. On a toujours Lauriane, Mélissa, Annie et Tristan. Allô la gang!
Hello! Hello. Salut!
Sans plus tarder, au programme ce midi, on a Lauriane qui est partie sur le terrain pour couvrir la grève des CPE. Un but, revaloriser les métiers traditionnellement féminins. Elle nous en parle en détail dans quelques instants. Tristan nous présente le reportage de notre correspondant situé à Boston, Mathieu, qui nous parlera de l'implication des étudiants dans les élections américaines. Mélissa nous présentera aussi les conséquences du marché des Airbnb sur la crise de logement et de l'hôtellerie. Puis enfin, Annie nous emportera sur la scène musicale avec les contre-coups des plateformes de streaming sur l'environnement. Écoutez la gang, j'aimerais un peu commencer cette émission. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat?
Chat.
Chat. Oh. Chien, définitivement.
Okay. Chat.
J'ai jamais eu de chien. Ouais.
T'as jamais eu de chien?
Non.
Eh bien écoute, moi j'ai la solution pour toi parce qu'il y a justement un nouveau café qui vient d'ouvrir. C'est le café Maison Pause qui est situé au 1736 Notre-Dame-Ouest à Montréal. Oh, oui. En fait, c'est un café qui vient d'ouvrir et vous pouvez emmener votre toutou.
Cute.
Donc c'est vraiment mignon. Il y en a déjà plusieurs qui offrent ce concept-là. Mais en fait, là, ils offrent aussi un service de toilettage pour vos animaux. Vous pouvez prendre rendez-vous. Fait que si jamais vous sortez du travail, vous avez envie de venir avec votre petit toutou puis lui faire une petite toilette. Je trouve ça vraiment cute d'inclure nos animaux dans le quotidien en général. Tu sais, ça me fait penser, il existe le yoga chèvre, la zoothérapie. Même à l'université, je sais qu'à la faculté d'aménagement, pendant les sessions, ben les mi-sessions, fin de session, pendant les bibliothèques, il y a un chien, il me semble qu'il s'appelle Oslo. Puis tu peux venir étudier, puis il y a le chien en même temps qui est là. Genre, je trouve ça vraiment cute. Vous en pensez quoi de tout ça, des quatre cafés, deux cafés?
Mais moi, j'ai beaucoup vu les chats, les cafés de chats à Montréal, mais les chiens, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. C'est vraiment cute.
Il y en avait un à Brossard. Ma mère faisait garder son chien parce qu'elle voulait pas qu'il soit seul. Tu peux manger avec ton chien. Ils ont un service avec un bol d'eau puis tout ça. C'est cute quand même de pas laisser ton animal tout seul à la maison. Fait que je trouve que c'est un bon concept.
Mm-hmm. Mais je voyais que ça faisait un petit peu de débat, mettons, des gens qui parlaient de tout ce qui est au niveau du côté de l'hygiène, tout ça. Mais je me dis que si c'est possible, c'est que ça doit quand même être pas mal réglementé. Est-ce que vous iriez prendre votre café dans des petits endroits comme ça?
Bah, comme j'ai pas de chien, non. Je pense pas. Mais j'ai une amie, c'est une folle des chiens, puis c'est sûr que ça marche.
Mm-hmm, ça marcherait, oui.
Est-ce que vous aviez déjà testé les quatre cafés? Moi, il me semble que c'était le premier café que j'avais testé à Montréal quand j'étais arrivée. Puis c'est tellement mignon, il y avait des chats partout. Bon, j'ai pas pu les caresser, mais...
Mais ça sent pas la litière dans le café?
Non. Moi, sur du lait, il y en avait comme deux, trois, quatre cafés à côté, l'un à côté de l'autre en plus, mais ils étaient tous vraiment cute.
Même les cafés pour chiens, c'est vraiment... très hygiénique, là. Ils mettent des sambons, il y a toujours du monde qui font
c'est
le ménage.
Bien
c'est bien fait, ouais.
Je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Par exemple, je sais que moi, je peux pas avoir d'animaux dans mon appartement. Fait que tu sais, si t'as envie de prendre une petite pause, puis t'as envie d'aller câliner des petits... Moi, je trouve ça mignon.
Ouais, vraiment.
C'est très chou.
Écoutez, aujourd'hui, on commence, on parle de ceux et celles qui façonnent l'avenir dès la petite enfance. Avec une nouvelle grève des CPE à l'horizon, on revient sur l'importance de ces métiers, souvent occupés par des femmes, qui peinent à être valorisées malgré leur caractère essentiel. On en parle tout de suite avec Lauriane.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Oui, donc, Mélissa, du 21 au 27 octobre dernier, c'était la Semaine nationale des éducateurs en petite enfance. Pour une troisième année consécutive, une semaine qui a pour but de valoriser une profession traditionnellement portée par les femmes, dont le financement est trop souvent sous-estimé. Une initiative qui dure depuis la grève historique des CPE en 2021, qui avait mis en lumière l'ampleur des difficultés auxquelles devaient et doivent toujours, d'ailleurs, faire face les travailleurs et travailleuses de la petite enfance. Les parents ont donc été encouragés pendant cette période à offrir des petits cadeaux et des lettres de remerciement aux éducateurs afin de souligner leur reconnaissance, mais aussi de rendre hommage à leur rôle non négligeable qu'ils ont dans le cheminement de leurs enfants, de nos futurs petits citoyens. C'est d'autant plus important en ce moment parce que les membres syndiqués de la Fédération des intervenants en petite enfance ont annoncé récemment une nouvelle grève qui fait suite à celle de 2021. Les moyens de pression devraient commencer, si tout se passe comme prévu, à partir du 11 novembre prochain. C'est pour répondre à la lenteur des négociations depuis la demande de révision de la convention collective par les syndicats qui traîne depuis maintenant 18 mois. Donc, les choses avancent pas, puis on veut faire un petit coup de pression sans néanmoins mettre les parents dans des situations difficiles. Le mandat de grève prévoit que les services de garde en milieu familial syndiqué vont ouvrir leurs portes une demi-heure plus tard, graduellement, tous les jours de la semaine. Une façon de donner le temps aux parents de s'adapter. Les centres de la petite enfance, les CPE, quant à eux, vont ouvrir leurs portes plus tard, mais les vendredis seulement. Les journées complètes de grève aussi ont été envisagées, mais pour l'instant, il n'y a pas de date encore choisie.
Quand tu dis graduellement, ça implique quoi exactement, Lorraine?
Mais c'est en fait que si on se dit sur une période de un mois, pour l'instant, c'est ça qui est prévu. Ben, la première semaine, les CPE vont ouvrir 30 minutes, leurs portes 30 minutes plus tard. La deuxième semaine, une heure plus tard. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ouvre midi. On sait que ça va compliquer un peu les choses pour les parents qui travaillent le matin. Mais c'est une façon de se faire entendre qui est pacifique. Donc, on les comprend. J'ai eu la chance d'en discuter d'ailleurs, entre autres, avec Kim Lapointe, directrice adjointe au CPE Les Ateliers à Montréal. C'est une CPE qui fête ses 50 ans puis qui prend en charge 160 enfants dans leurs deux installations sur le plateau Montréal. Comme la CPE est syndiquée, ben, elle participe à la grève et les revendications sont les mêmes. Un financement plus grand pour être en mesure de répondre à la demande et offrir un service de qualité. En tant que directrice adjointe, elle témoigne que la rétention du personnel en ce moment est de plus en plus difficile, mais aussi l'attrait de la profession diminue à cause des salaires offerts trop bas. On sait que c'est un service essentiel et c'est dommage. On voit qu'il s'épuise par manque de financement et c'est inquiétant parce qu'on sait que pratiquement tous les parents aujourd'hui de jeunes enfants, ben, ils n'ont pas le choix de travailler. Le coût de la vie requiert souvent deux revenus, donc c'est pour beaucoup, néanmoins, pas un choix. C'est un service essentiel. Donc, ça nous semble plus être une question d'opinion si tel ou tel métier mérite une hausse du plafond salarial. Ce sont les faits qui parlent d'eux-mêmes. Il y a un manque criant d'éducateurs et de CPE au Québec. Puis il faut trouver une solution au cœur du problème. Puis soit faire valoir que le caractère essentiel de cette profession et qu'il requiert un investissement plus sérieux. Selon Madame Lapointe, la dernière grève historique de 2021 a provoqué un certain rattrapage salarial, mais ça reste insuffisant. Ça aurait touché surtout les éducatrices les plus anciennes et expérimentées, mais ça reste néanmoins difficile d'attirer de nouvelles éducatrices vu les premiers échelons qui sont très peu payants. Elle me parlait d'ailleurs d'un témoignage. L'été passé, elle avait engagé une éducatrice super compétente, mais qui avait pas de formation scolaire, donc son salaire débutait à 18 $ de l'heure. Évidemment, elle est partie. Comme Kim le dit, c'est moins que ce que sont payés les gens à la SAQ et au Costco. Donc,
les CPE n'ont pas la liberté d'augmenter le salaire de leurs employés?
Les CPE, en fait, ils peuvent pas aller au-dessus de ce que le ministère impose comme échelon et plafond salarial. C'est le ministère qui décide c'est quoi les normes. Et même ceux qui font une technique de 3 ans d'éducation de l'enfance, le salaire commence à 21,60 $. Pourtant, c'est leur profession. Ils ont investi dans leur scolarité pendant 3 ans. Donc, c'est vraiment très peu. Puis, donc, c'est pas surprenant que beaucoup quittent pour subvenir aux besoins de leur propre famille parce qu'il faut pas oublier que ces travailleurs-là, ils ont aussi des enfants aussi à s'occuper souvent à la maison. Et on peut pas leur en vouloir de vouloir des meilleures opportunités non plus, tu sais. Puis, donc, quand ces personnes partent, le poids retombe sur les intervenantes qui sont restantes et la charge de travail est énorme. C'est très épuisant. Puis aussi, il y a une question d'investir dans la formation de ces employés qui viennent et qui quittent. Il y a un coût en termes de temps et d'énergie. Et ça, c'est sans parler qu'il y a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers qui ont besoin d'aide pour attirer des éducatrices spécialisées qui sont pas intéressées par le salaire qu'on a à leur offrir. On l'écoute.
Dans nos groupes d'enfants, Il y a de plus en plus d'enfants à défis, à besoins particuliers. Puis si on n'a pas d'aide pour ça, puis c'est, tu sais, quand on parle de reconnaissance puis d'argent, oui, on a besoin de ça, mais on a besoin d'aide. On a besoin, tu sais, que les subventions soient meilleures pour avoir plus d'employés, pour pouvoir aller engager des éducatrices spécialisées.
Donc, pour elle, c'est une question d'offrir des meilleurs services puis de réduire aussi la charge des épaules de ces éducatrices qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences de s'occuper d'enfants avec des besoins particuliers. Donc, en réponse aux revendications, il y a d'ailleurs Stéphane Doucet puis le conseil d'administration de l'Association des travailleurs grecs du Québec qui ont pris l'initiative de créer une conférence ouverte au public et gratuite à tous afin d'expliquer dans de plus de détails à quoi s'attendre dans les prochains mois qui viennent par rapport à la grève. Cette conférence va avoir lieu ce mercredi, le 30 octobre, à 18h, donc demain. Une conférence-discussion ouverte avec trois dirigeantes syndicales du milieu de la petite enfance du Québec qui sont actuellement en négociation pour une nouvelle convention collective. Donc, ils sont dans le plein centre de l'action. Ils ont toutes les informations. Si vous voulez y aller, ça va être intéressant, je pense, surtout pour les parents qui veulent comprendre ce qui se passe. Je lui ai demandé s'il était confiant, d'ailleurs, quant au support de la population, parce que je me disais, il y a peut-être des parents qui vont être fâchés. Ça complique leur vie quand même. Voici sa réponse.
C'est pour stimuler, mettons, la solidarité du plus grand public, puis aussi pour donner une opportunité aux membres de s'informer, là. Moi, je suis parent, là, par exemple, avec deux enfants dans un CPE, puis je pense que, règle générale, c'est sûr que les pas contents, c'est tout le temps parmi ceux qui se font le plus entendre. Là. Par contre, le niveau de soutien pour les éducateurs et éducatrices est immense, parce qu'on sait quel genre de travail qu'ils font. Là. En tant que parent, on sait pas mal là, qu'est-ce qu'ils font face. Pour moi, là, en tout cas, j'ai vécu la dernière grève en 2021. Puis le niveau de soutien était immense, malgré le fait que c'était extrêmement difficile. Là.
Donc, vous aurez la chance d'entendre plus de Stéphane Doucet, qui va être présent à la conférence. C'est lui, d'ailleurs, qui va animer. Si vous voulez aller voir puis comprendre plus l'enjeu, c'est au 5359 Avenue du Parc, mené par l'Association des travailleurs grecs du Québec. C'est gratuit, c'est ouvert au grand public, vous allez avoir des experts sur le sujet et c'est une belle opportunité aussi pour discuter du fait que les métiers traditionnellement féminins au sens plus large doivent être reconnus à leur juste valeur et que c'est plus le temps de cesser de dévaluer leur importance et les financements requis. Stéphane Doucet me confirmait que la question sera abordée pendant la conférence, donc soyez présents.
Mais les assemblées pour voter sur ce mandat auront lieu du 2 au 15 novembre. On espère vraiment qu'un accord pourra être trouvé. En attendant, prenons une pause. On écoute « Fallait qu'on vive » de Sarah May. On se retrouve juste après.
Personne peut me blesser, j'ai déjà vu le pire. Ils ont voulu notre peau, maintenant est-ce qu'on va fuir? Maintenant, reposons-nous bien, il faut en garder pour la suite. So turn up, life too real maintenant. So turn up, fallait qu'on vive l'enfer. So turn up, let's celebrate life. You know me, alright. Wanna stay up with you, wanna stay up with you, wanna stay up with you, wanna stay. Ça va décommencer là-bas. Tu sais, pour le drama, faut pas compter sur moi. J'ai connu le désespoir, je me suis fait des histoires. Enfin, il est pas trop tard pour retrouver la foi. La nature a parlé, maintenant laissons-la tranquille. Il n'y a que l'amour puis la famille qui nous guide. Tu voulais level up, tu voulais faire un cop. T'en voulais pour ta mom. Life too real, maintenant, so turn up.
celebrate life. You know me, alright. Wanna stay up with you. 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 Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Hey. Ouais, j'ai mangé. As-tu mangé? Pas danger. Tu veux danser, je vais pas changer. Tu veux turn up, on va s'enjailler. Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Wanna stay all night long with you. You, 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 you. Wanna stay all night long with you. You, 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 you.
C'était Fallait qu'on vive de Sarah May, de retour sur les ondes du CISM. Il est 12h15, vous écoutez Bulle d'écoute au 89.3. Écoutez, ça fait quelques semaines qu'on en parle, la grande date approche à grands pas, c'est un vrai manège à sensations fortes, la course des élections américaines est au cœur des préoccupations. La semaine dernière, Tristan nous parlait du phénomène des fake news reliés à cet événement et comment les détourner. Cette semaine, on voyage un peu. On s'en va du côté de Boston, dans le Massachusetts, pour discuter de l'implication étudiante dans ces élections.
Alors oui, plus qu'une semaine justement avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, les deux candidats Kamala Harris et Donald Trump jettent leur dernière force dans cette ultime semaine de campagne. Les plus récents sondages indiquent d'ailleurs une lutte extrêmement serrée entre les deux candidats. Et pour cette occasion, nous avons donc décidé de nous pencher sur le rôle des universités dans cette campagne électorale. On retrouve Mathieu Naudin, un UDBien étudiant de troisième année du baccalauréat d'études internationales en échange à l'université du Massachusetts à Boston lors de la session d'automne.
Alors Mathieu, tu es à Boston depuis la fin août, tu suis cette campagne de près. Est-ce que la pression commence à monter à une semaine du scrutin ?
Eh bien Tristan, je dirais oui et non. C'est-à-dire que pour quiconque suit la politique, effectivement, ça s'accélère. Les deux candidats poursuivent leur campagne. On a vu Donald Trump servir des frites au McDonald's ou encore dimanche dernier au Madison Square Garden à New York, et Harris dans les États clés comme entre autres la Géorgie où elle était jeudi dernier avec Barack Obama. À Boston, il y a des associations politiques dans toutes les universités qui organisent des événements autour de la campagne. On a des militants démocrates non partisans et aussi certains groupes républicains et conservateurs. Mais en même temps, Tristan, il faut rappeler que l'élection est un suffrage indirect avec des électeurs, des grands électeurs dans chaque État. Et sauf cataclysme intersidéral, le Massachusetts est certain d'être remporté par Kamala Harris. On le surnomme même « the blue state of blue states ». Et Boston est une sorte de bulle démocrate qui a voté à 80% pour Joe Biden en 2020. Donc oui, la pression monte, l'élection est très serrée, mais assez peu de suspense ici au Massachusetts et encore moins dans la ville de Boston.
Tu mentionnes que Boston, justement, est un château fort démocrate. Tu as donc rencontré des militants de ce parti. Ils sont dans quel état d'esprit à une semaine ?
Oui, effectivement, j'avais pu assister à des événements de campagne organisés par des comités locaux ou parfois carrément par le Parti démocrate du Massachusetts. Je te dirais que j'ai senti des militants extrêmement concentrés et lucides. Ils sont plutôt rassurés, effectivement, d'avoir Kamala Harris plutôt que Joe Biden comme candidat. En juin, après le premier débat catastrophique du président, ils étaient complètement dévastés. Mais ils ont été revigorés par la prestation de leur championne en septembre face à Donald Trump. Mais en même temps, ils savent que la partie est encore loin d'être gagnée. Quand tu regardes les sondages, ça montre une lutte extrêmement serrée, en particulier dans les États bascules. Le soir du 10 septembre, le soir du débat entre Kamala Harris et Donald Trump, j'avais pu parler à Steve Kerrigan, le chef du Parti démocrate du Massachusetts, et il avait été très clair concernant les enjeux de l'élection.
Everything's at stake in this election. I mean, the two competing visions between Vice President Harris and President Trump could not be more different.
She has a vision that's fighting for us, that cares about us, that focuses on what's best for the people of the United States of America. He has a campaign that is revenge-driven, insult-laden, and focused entirely just on himself.
On imagine du coup qu'il y a du militantisme dans les universités.
Oui, Tristan, je vous avais parlé du fait que Boston était une bulle démocrate. Eh bien, c'est encore plus vrai dans les universités. On a une population très jeune qui est préoccupée par certaines questions comme l'environnement, très présente sur les réseaux sociaux, des indicateurs qui semblent plutôt favorables aux démocrates. Et les militants du parti appliquent des codes qui font mouche au sein de la génération Z. À UMass Boston, par exemple, le Club des démocrates a mis sur pied un forum Discord où l'on publie quotidiennement des mèmes ou des actus liés à la campagne. J'avais pu m'entretenir d'ailleurs avec Samantha, présidente des démocrates de UMass Boston.
As someone who lives in the United States, I think it's very important to talk about the issues that face us, and it's very important to be involved in that. It's something that I enjoy. So we have weekly meetings. We've participated in voter registration just to get people involved in any way they can. We've hosted debates with other clubs and where we talk about important issues.
Passons du côté républicain. Comment ça se passe de leur côté? Est-ce qu'ils arrivent à faire campagne malgré que cet État soit un bastion démocrate?
Oui, alors Tristan, je vais tuer un mythe. Oui, il y a des républicains à Boston. Est-ce qu'ils ont pignon sur rue? Sûrement pas. J'ai rencontré des militants républicains et conservateurs à Boston University. C'était une réunion organisée dans une petite salle au sous-sol d'un bâtiment de l'université. Donc on se fait plutôt discret. En discutant avec les participants, on m'a confié qu'on se concentrait davantage sur les élections locales, comme les législatures d'État ou les cours sénatoriales, par exemple, plutôt que sur les enjeux nationaux. J'avais parlé avec Amanda, la présidente du club, qui n'a pas caché son malaise vis-à-vis de la campagne de Donald Trump et a évoqué le manque de réceptivité des autres étudiants par rapport aux candidats républicains.
I think what they're really not receptive to is Trumpism. I think, unfortunately, he has kind of turned our party into something that it's not. And a lot of people in his side take things to a real extreme. And I think that's really unfortunate for people who overall are just conservative. And I think he is kind of the biggest problem in pushing things a little too far.
Est-ce qu'il est difficile pour ces militants d'être républicains ou conservateurs dans une ville aussi démocrate que Boston?
Bon, avant toute chose, je suis désolé, Tristan, mais je vais un peu péter ta balloune. C'est-à-dire que les militants que j'ai rencontrés, ils vont tous voter pour Donald Trump. Mais ils ne sont pas forcément emballés à l'idée de le faire. Mais effectivement, tous m'ont confié la difficulté qu'ils avaient, non pas d'être républicains, parce que ça, ils le sont, mais plutôt d'exprimer leurs convictions conservatrices dans un milieu très favorable au parti adverse. Ça donne d'ailleurs très souvent lieu à des dialogues de sourds, voire à simplement des engueulades avec les militants démocrates. Grace Price, par exemple, est membre de l'association républicaine de Boston University et déclare avoir déjà rencontré des problèmes en raison de ses orientations politiques.
It's not only like being a Republican in Massachusetts, but with being a Republican on a college campus is crazy. People will go through like your social media following and see who you follow. I had a series of several stalkers last semester that found out that I was a Republican and would try and find my friends and family and tell them things about me, about being a Republican.
Alors oui, en effet, il y a les militants du parti, c'est clair, mais il y a aussi des associations non affiliées qui promeuvent les idées conservatrices et elles sont devenues virales.
Oui, Tristan, spécialement pour vous, à Bulle d'écoute, je suis allé à la rencontre de l'association Turning Point USA. Si ça ne vous dit rien, il s'agit d'une association conservatrice fondée par le militant Charlie Kirk. Peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il va à la rencontre des étudiants sur les campus américains et débat avec eux. Le but est de faire la promotion des idées conservatrices et de ce qu'ils appellent les valeurs traditionnelles américaines auprès de la génération Z, parce qu'ils considèrent que la génération Z a eu un lavage de cerveau avec les idées woke. Et l'événement auquel j'étais, c'était une conférence donnée par Morgan McMichael, une représentante de Turning Point USA, et le thème c'était « Pourquoi le féminisme est mauvais pour les femmes ?» On y faisait une critique du féminisme moderne pour promouvoir une vision traditionnelle du rôle social de l'homme et de la femme. Pour Morgan McMichael, celle qui nous faisait la présentation, le succès rencontré par l'association est très encourageant.
On our college tour alone, we see thousands of high school and college students showing up to our events across the country, and it is effective messaging. You know, in Gen Z, there's 40 million members of Gen Z that are eligible to vote in this next election that's happening in just 2 weeks. So what better way to actually talk to our generation than to having than having thought-provoking conversations and creating educational and entertaining content on the internet?
Ce sont des rencontres passionnantes. Justement, tu as pu te rendre à la prestigieuse université Harvard. Et Mathieu, tu as parlé à des associations non partisanes qui encouragent les étudiants à s'inscrire sur les listes électorales et à voter par correspondance. On écoute ton reportage.
Un gâteau dans une main et un bulletin de vote dans l'autre. Le rendez-vous a lieu devant une pâtisserie du quartier de Cambridge, dans le nord de Boston, à deux pas de la célèbre université Harvard. Environ une vingtaine de personnes sont présentes et se dirigent en groupe vers la poste pour y déposer leur suffrage. L'événement est organisé par l'association étudiante Harvard Votes Challenge à l'occasion de la journée du bulletin de vote sur le campus. Le but de la manœuvre, faire sortir le vote des étudiants de Harvard en prévision de l'élection et si possible plus tôt que tard. Une mission ambitieuse, mais pour Jonathan Schwartz, l'un des organisateurs, cela peut être déterminant.
We know that when people vote in the first three or four elections of their lifetime, they are so much more likely to vote for the rest of their lives. And so the way I see it is our job is to create this foundation of civic engagement for students that is absolutely crucial to the success of America and every other country, every other democracy that they end up in down the road.
Une promotion de l'implication, donc, qui semble trouver son public selon les membres de Harvard Votes. Au cours du semestre, l'association propose aux étudiants de s'inscrire sur les listes électorales et les invite à voter par correspondance et par anticipation. Comme les résidents de l'université viennent de partout dans le pays, il faut faire un important travail de démystification des procédures pour voter à distance. Présent au milieu des participants à la poste, Thomas Dunn, le doyen des étudiants de Harvard, soutient cette initiative et se réjouit de ce qu'il considère comme un éveil croissant de la jeunesse vis-à-vis de la chose politique.
I do think students are much more aware there are issues that are pressing more for young people, things like climate change, for example. I think more students are voting now than 20 years ago, and I think there's also a sense with demographics that young people are realizing that they are the largest voting bloc, and if they vote at the same rate as senior citizens, 65 plus, you know, they'll have more influence over government.
Si l'association se veut non partisane, il faut quand même rappeler que le vote des jeunes est généralement plutôt favorable aux démocrates. Ils avaient voté à 61% pour Joe Biden en 2020. Une génération des 18-24 ans réputée abstentionniste, mais dans une élection aussi serrée, leur vote pourrait bien faire basculer le scrutin. Mathieu Naudin, CISM, Boston.
À noter justement que les sondages se resserrent de plus en plus. Il faut vraiment être attentif quand même à ce genre de sondage. Il y a un article du Monde qui est sorti cette semaine justement qui disait que Kamala Harris perdait de plus en plus de place au profit de Donald Trump, qui a quand même généralement 2 points d'avance sur les états clés comme l'Arizona, etc. Attention tout de même aux sondages. En 2016, ils se sont trompés. En 2020, ils se sont trompés. Mais ça montre juste que cette élection va être très, très serrée. Et donc, c'est pas mal ça. Merci beaucoup, justement, à Mathieu d'avoir été à la rencontre des électeurs américains à Boston, dans le Massachusetts. Et on va suivre cette dernière semaine avec une grande attention.
Mais merci à toi, Tristan. Puis encore une fois, merci à Mathieu pour ce reportage vraiment complet. Déjà plus que 8 jours avant le résultat des élections, la course s'accélère. On le voit dans les médias, la pression monte de plus en plus. On a hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que Trump accédera à son second mandat? Comme d'habitude, on s'est informé et on en discutera prochainement. Sur ce, j'ai une petite question pour vous. Où est-ce que vous écoutez? On change vraiment de sujet. Où est-ce que vous écoutez votre musique? Est-ce que vous êtes plutôt cassette encore, tu sais, comme, est-ce que vous êtes vous écoutez sur les plateformes? Est-ce que vous avez encore des CD dans l'auto?
Ben moi j'ai repris un trip sur les vinyles.
Ouais,
moi aussi. Je suis vraiment là-dessus.
Fact.
Quasiment plus que Apple Music, le streaming en général. Là.
Ouais, ouais, moi aussi. Chez moi, c'est comme facile, tu le mets, puis c'est exact. Vraiment relax, c'est le fun.
Bah, c'est vraiment redevenu à la mode. Mais écoutez, les plateformes de streaming musical, ça facilite peut-être notre quotidien, mais ça a aussi un coût, et pas seulement monétaire. Restez connectés, on en parle un peu plus tard dans l'émission avec Anne-Lee, mais pour le moment, on écoute On se reverra de 2WI en featuring avec Vakra. Juste après, on discute des conséquences du marché du Airbnb sur l'hôtellerie et la crise du logement. À tout de suite.
Thank you.
Ça promène, ça la fait kiffer, même si je l'écoute moins que mon petit doigt. Je prends des soirées tellement tôt qu'elle voit jamais les étoiles avec moi. Allez, essaye de me dire des mots dans l'oreille, j'écoute. Essaye de me dire des mots dans l'oreille, j'écoute.
Je m'amène avec moi, premier coup d'essai. Gars, je te prends dans l'état, y'en a assez. Cambriolet, ton petit cœur dérobé. Et ça s'est fait, amore, yeah.
On va pas t'aimer,
c'est la fin de la route. Ma belle, on se reverra.
On va pas t'aimer, c'est la fin de la route.
Ma belle, on marchera. Je reste un peu trop d'actes manqués. Les quatre saisons, c'est ton pied, mon pied.
C'est trop pimenté. De toi j'attends juste une OP.
Bébé je m'en fous des autres. Qualidad, envoie-moi des nudes. Hot sur WhatsApp. Oh, d'or ça c'est les écarts du passé.
Hey, alors comme ça ouais tu pars. Apparemment rien n'est acquis. Le proprio il part. Il te restera plus que du locatif. Et jamais non pour un petit canon. Je lui dis jamais oui. Elle me dit jamais non. Il se l'emmène faire le tour de la vie.
Écoutez, bulle d'écoute au 89.3, c'était On se reverra de 2WI et Vacra. Toujours un plaisir d'être avec vous ce midi. Je vous rappelle ici Maïna, votre animatrice, accompagnée de nos quatre chroniqueurs qui nous parlent d'actualité en toute intimité. Écoutez, qui n'a pas envie de se booker une petite fin de semaine, une escapade à la ville ou dans les forêts, dans un petit Airbnb bien cosy? On n'en parle pas assez, mais derrière ces petits coins de paradis se cachent parfois des zones grises, voire dangereuses. Entre crise du logement, tensions dans le secteur hôtelier et questions de sécurité, la non-réglementation des locations de courte durée pourrait bien finir par nous coûter cher. Alors, jusqu'où va le phénomène et surtout comment le canaliser? On en parle tout de suite.
Oui, donc ces derniers temps, on entend souvent parler de situations problématiques qui sont liées au Airbnb, qui sont non réglementées à Montréal. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu un feu dernièrement dans le Vieux-Port de Montréal pour une deuxième fois, où une mère et sa fille de 7 ans ont perdu la vie dans un incendie le vendredi 4 octobre 2024. Le propriétaire de l'immeuble de cette auberge avait deux chambres sans gicleur ni fenêtre, ce qui est illégal. Et c'est le même propriétaire qui a également causé la mort de 7 personnes l'année passée, alors qu'il utilisait la plateforme Airbnb de façon illégale. Pour les mêmes raisons, les personnes étaient prises dans une chambre sans fenêtre avec le building qui était en feu. Ce genre de situation est vraiment déconcertant et remet beaucoup en question la réglementation dans les locations touristiques à Montréal. Pour ce faire, j'ai voulu approfondir le sujet et explorer ce phénomène d'expansion des Airbnb dans les villes. Selon une étude de la presse, en août 2023, à Montréal, il y avait 8630 annonces de logements sur Airbnb. Puis aujourd'hui, on est rendu à 8807. Donc, ça ne cesse d'augmenter. Pour ce qui est de la province, il y avait près de 30 000 logements en annonces Airbnb. Puis maintenant, on est rendu à 31 000 aujourd'hui en 2024. 31 600 logements.
Petite parenthèse, moi, j'ai vu, selon une étude de l'Agence fédérale qui a été faite cet été, il y a environ 30 % des logements qu'on va voir sur un Airbnb qui ne sont pas des vrais logements possibles pour ou légaux.
Exact. C'est vraiment un gros problème. Mais ça, c'était avant qu'il y ait une nouvelle loi. Au Québec, maintenant, ça prend un permis obligatoire pour pouvoir pratiquer du Airbnb avec la CITQ, qui est la Corporation de l'industrie touristique du Québec. C'est assez nouveau comme loi. Puis à défaut de se conformer à ces restrictions, il y a des amendes qui sont prévues de 5 000 à 50 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 10 000 à 100 000 $ dans les autres cas. Donc, on voit que la réglementation représentation au Québec est de plus en plus sévère. Et j'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec Martin, qui est un propriétaire de plusieurs chalets et de plusieurs Airbnb à Montréal et dans les Laurentides. Puis, il nous a notamment fait part, dans son entrevue, de la sévérité des Airbnb qui s'est resserrée dans les dernières années. Donc, on l'écoute à l'instant.
Je trouve ça quand même assez sévère, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interventions avec l'intelligence artificielle à travers leurs moyens de communication. Tu peux pas communiquer certaines informations personnelles tant aussi longtemps que la personne n'a pas réservé. Ils se protègent beaucoup pour que les utilisateurs s'obligent à utiliser la plateforme de réservation Airbnb. Donc, il y a quand même beaucoup de surveillance. Et puis, ben, nous autres, à chaque personne qui vient, ben, il faut qu'on remplisse un genre de questionnaire qui permet justement de donner notre opinion sur comment s'est déroulée la location. Est-ce que c'est des gens qui ont été respectueux? Est-ce qu'ils ont fait le ménage? Est-ce que il y a des choses qui ont été cassées? Est-ce qu'il y a eu des plaintes des voisins ou quoi que ce soit? Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très professionnel. Puis ça protège, comme je le dis, je le répète, ça protège les deux côtés.
Parce qu'il y avait quand même un problème au niveau de la crise du logement. En ce moment, il y avait des gens qui utilisaient Airbnb de façon illégale, tu sais, à Montréal, puis surtout ben, dans certaines régions au Québec, mais plus en Montréal, dans les grandes villes.
Maintenant, tu ne peux plus faire ça.
Okay.
Parce que tu es obligé, si tu dois faire une annonce sur Airbnb, tu es obligé d'avoir un permis d'exploitation touristique qui est émis par le gouvernement du Québec.
Mm-hmm.
Airbnb l'oblige. Ça s'appelle le CITQ.
Ouais.
Et tant aussi longtemps que tu ne démontres pas que ton dossier est à jour avec le gouvernement, il te passe avec un minimum de location à 31 jours. Donc, tu n'as plus le droit vraiment de faire de la location à court terme si tu n'es pas sur le parapluie avec tes obligations gouvernementales.
Comment on explique ce genre d'incident, Mel?
Il y a plusieurs raisons, dans le fond. Selon une enquête de la presse aussi avec la journaliste Isabelle Ducas, il y a plusieurs locations Airbnb qui n'ont pas le droit de le pratiquer dans certaines régions comme Verdun. Puis, ils vont changer l'adresse sur le site de la CITQ dans des lieux comme le vieux port de Montréal, ce qui est vraiment scandaleux parce que dans le fond, on s'attend à ce que les gens respectent, mais les gens ne le font pas parce que les Airbnb peuvent quand même être vraiment une deuxième source de revenus importante pour de nombreuses personnes qui ne réclament pas au Québec. Puis ça aussi, c'est un deuxième problème au niveau de la fiscalité au Québec. Ces détournements de la loi peuvent causer aussi d'autres problèmes auprès des résidents de quartier qui se plaignent des bruits qui sont trop forts. Il y a des problèmes de malpropreté aussi dans les quartiers. Puis toujours selon cette même enquête de la presse, le nombre d'annonces Airbnb au Québec est passé, c'est ça, de 30 000 à 31 600, ce qui est beaucoup.
J'imagine que ça doit également affecter la crise du logement.
Oui, donc ça, c'est vraiment le troisième problème. Selon un rapport de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, le IRIS, la hausse des logements offerts sur des plateformes comme Airbnb a aussi contribué à diminuer le nombre de logements disponibles pour des locations de longue durée dans des quartiers vraiment centraux à Montréal. Puis ça, c'est un autre problème, surtout avec, c'est ça, la crise du logement et le nombre d'immigrants aussi récents qu'on a constaté qui est plus élevé. Ce rapport montre que dans certains arrondissements comme le plateau Mont-Royal, les unités Airbnb représentaient près de 10% du parc locatif évolution des loyers. Cette diminution du parc locatif crée une pression sur les loyers qui contribuant ainsi à leur hausse. Par exemple, entre 2019 et 2022, le loyer moyen d'un appartement, une chambre à Montréal, a augmenté de près de 20%. Plusieurs analystes associent cette augmentation à la hausse de la demande combinée à la réduction de l'offre à cause des Airbnb. En 2023 puis 2024, c'est une réalité qui est très difficile parce qu'on manque cruellement de logements. Il y a aussi un problème avec au gouvernement du Québec par rapport au logement à cause que c'est difficile de vraiment tracer, c'est ça, les adresses qui sont sur Airbnb et sur le site de la CITQ. Donc c'est assez compliqué. Airbnb s'adapte bien à nous et aux nouvelles réalités économiques, comme avec l'inflation économique, mais c'est maintenant à nous aussi de le faire en tant que province. Faut qu'on s'adapte à Airbnb. D'ailleurs, plusieurs villes comme Amsterdam et San Francisco apparaissent comme des villes qui sont particulièrement très strictes en matière de régulation des locations saisonnières comme Airbnb. Amsterdam, Berlin, San Francisco ou encore Toronto interdisent la location en meublé de résidences secondaires. Je pense que ce serait bien de prendre exemple sur ces réglementations pour éviter davantage d'incidents et sécuriser le tourisme à Montréal aussi, parce que des incidents comme ces feux-là, c'est vraiment tragique, puis c'est dommage en fait.
Mais en tout cas, c'est sûr que ben c'est quand même assez compliqué, je trouve, de faire de la réglementation là-dessus. Tu sais, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Ça fait quand même quelques années, mais tu sais, comme... Oui, tu veux dire
ben en fait, c'est vraiment à cause de Revenu Québec aussi. Donc le problème, c'est que les gens, ils vont aller sur le site, ils vont faire comme s'il y avait le permis, mais ils vont changer les adresses au lieu de dire la vérité. Donc c'est ça qui est un peu plate au Québec en ce moment.
Ouais, puis il y avait une, je me rappelle plus c'était quoi son prénom, mais il y avait une affaire qui était sortie des personnes qui avaient loué un Airbnb, puis en fait elles s'étaient rendues compte qu'elles entendaient du bruit. C'est assez glauque comme histoire, mais et en fait il y avait la personne qui habitait dans le Airbnb, mais qui était toujours dans la maison, puis qui était en fait qui vivait derrière une porte cachée. Faites attention.
On en voit de toutes les couleurs.
Ouais, c'est ça. Faites attention à vous, même dans vos petites escapades. Merci Mel. On espère que vous avez du fun avec nous ce midi. Si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram bulle-du-bas-d'écoute.officiel. On adore vous lire puis vous répondre, comme on peut pas vous voir. Et justement, on répond à vos messages pendant la pause. D'ailleurs, en parlant de pause, on écoute Fille de personne 2 de Hubert Chiasson. À tout de suite. Hubert Lanoir. Merci d'être avec nous ce midi. Je vous rappelle que vous écoutez Bulle d'écoute, l'actualité en toute intimité. Votre émission qui vous accompagne chaque mardi de midi à 13h pour votre pause café conversationnelle. Du vinyle aux cassettes, au Walkman, au CD, jusqu'à la possibilité d'écouter n'importe quelle musique d'un seul geste via nos téléphones. Nos pratiques d'écoute ont énormément évolué depuis les dernières années. On en parle peu, mais derrière ces pratiques se cachent des retombées environnementales notables. Il est midi 44, l'heure de parler musique avec Anne-Li.
Et oui, les plateformes de streaming ont complètement transformé la distribution musicale. Pour vous faire un petit rappel, on a passé du vinyle dans les années 50 aux cassettes, aux Walkman, aux CD, aux iPod et au streaming dans les années 2000 qui a pris une popularité énorme dans notre ère, comme Spotify, Apple Music, YouTube Music, SoundCloud et bien d'autres. Malgré qu'il y a encore une consommation en format physique, le streaming reste le plus consommé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui écoutent justement encore, je sais qu'on l'a demandé tout à l'heure, mais juste pour rappeler à nos auditeurs?
Les vinyles, ouais.
Ouais, juste les vinyles. Uniquement.
Les vinyles, mais ça coûte cher quand même. C'est quand même
exact. Parce que t'as le design qui va avec pour décorer ton appartement.
Ouais, c'est fact. Mais en même temps, ça fait de la belle déco à la maison. On aime ça quand même.
Ouais, quand tu les affiches sur ton mur, là.
Oui. Ben, en plus de ça, ça a ouvert, le streaming a ouvert la porte à de nombreux artistes indépendants qui leur permettent de partager leur musique avec le monde entier sans avoir à passer par des circuits traditionnels des maisons de disques.
Oh. Aurais-tu des exemples, justement, Annie?
Oui, on va prendre l'exemple de SoundCloud. Cette plateforme est devenue un excellent moyen pour les créateurs de musique indépendante parce qu'elle offre la possibilité de recevoir du contenu créé par ces artistes puis de leur donner une visibilité instantanée. SoundCloud a aidé de nombreux talents émergents à faire une place sur la scène musicale, justement, des artistes qui, sans cette possibilité numérique, il n'y aurait pas nécessairement eu la chance de se faire entendre ou se faire connaître. On va prendre l'exemple de Les Louanges, Hubert Lenoir qu'on vient juste d'écouter, Safia Nolin, Fred Pellerin et plusieurs autres. C'est aussi bon pour l'autopromotion, par exemple, les réseaux sociaux, pour se mettre de l'avant sur un réseau social sans avoir à passer par les affiches publicitaires traditionnelles. En plus de ça, le streaming permet d'écouter de la musique sans limite, qui crée de nouvelles façons de faire de l'argent et qui rend la distribution musicale accessible à tous pour des frais allant de 6 à 15 $ mensuels pour avoir du contenu sans ou avec publicité, dépendamment de la plateforme. Juste en 2024, il y a eu plus de 100 000 chansons qui sont téléchargées chaque jour en Spotify. On pourrait parler aussi des désavantages économiques, de production, etc.
J'imagine qu'au niveau de l'environnement, il y a certainement un impact aussi.
Ben oui, effectivement. Selon vous, est-ce que c'est plus écologique de consommer sa musique en streaming ou en version physique?
Ben, je pense qu'avec les serveurs et tout, en streaming, ça consomme, là, l'air de rien. Donc,
Bingo! Selon une analyse du média Info Durable, pour le contenu de streaming musical, juste en 2016, il y a eu 8 000 tonnes de plastique gaspillées. Oui, mais 350 000 tonnes de CO2 d'émis. En 2020, l'utilisation du streaming a fortement augmenté, ce qui a entraîné des émissions de gaz à effet de serre mondial liées à l'industrie musicale estimée de 1,57 millions de tonnes. C'est fou l'ampleur que ça a pris. Écouter de la musique sur les plateformes de streaming, ça pollue beaucoup plus qu'on pensait, je pense.
Mais on aurait pu croire que la conversion de l'industrie musicale matérielle pour le numérique et la diminution de la production de plastique, tu sais, avec la fin des CD, ça aurait pu réduire l'impact environnemental, là.
Eh bien non, on s'est trompé parce que à l'époque où la vente du CD était à son apogée au début des années 2000, environ 61 millions de kilos de plastique étaient utilisés pour leur fabrication. Aujourd'hui, malgré la baisse de l'utilisation du CD, l'empreinte de carbone des plateformes du streaming musical est encore plus élevée. En 2018, juste aux États-Unis, les émissions de gaz à effet de serre sont générées par le streaming musical. Généré par le streaming musical représentant environ 250 millions de kilos. Mais par exemple, écouter un album en streaming pendant environ 5 heures peut produire autant d'émissions de carbone qu'un CD physique. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un aussi gros impact environnemental. Je vais clairement faire plus attention maintenant. Le centre de données de plateformes comme Streaming qui utilise Google Cloud consomme énormément d'énergie. D'ailleurs, Google Cloud vise à être entièrement alimenté par des énergies renouvelables d'ici 2030. Et le streaming reste un gros consommateur d'énergie, on le rappelle.
Y a-t-il d'autres impacts environnementaux?
Oui, il ne faut pas oublier les serveurs de réseau dans lesquels sont stockés et diffusés nos chansons qu'on consomme énormément et qui consomment d'énergie. Plus on sollicite ces plateformes, plus elles ont besoin de ressources pour fonctionner. Écouter de la musique en streaming nécessite un réseau cellulaire performant, comme si la 4G et la 5G nous permettent d'écouter nos morceaux sans interruption. Elles sont très gourmandes en énergie. Il faut utiliser nos données cellulaires pour écouter de la musique consomme bien plus d'énergie que si on utilise le Wi-Fi pour télécharger nos musiques et qu'on l'écoute par la suite sans que ça ait besoin de télécharger après à chaque fois qu'on l'écoute.
N'oublions pas les appareils eux-mêmes, n'est-ce pas?
Ben oui, en effet, parce que la plupart d'entre nous, on écoute notre musique sur notre téléphone. Ces appareils nécessitent non seulement de l'énergie pour fonctionner, mais aussi une grande quantité de ressources rares pour leur fabrication. Une fois arrivés en fin de vie, ben ils génèrent une quantité encore plus importante de déchets électroniques. Bref, si on croyait que la numérisation allait être la solution écologique de notre consommation musicale, il est peut-être temps de réviser notre façon de penser. Il y a quelques solutions. Guys, on télécharge notre musique et la conserver, enregistrer après tout ça sur le Wi-Fi. Ça permet d'économiser la 4 ou la 5G. Faut pas oublier qu'il y a du monde qui écoute la musique via vidéo YouTube. On télécharge également sur Wi-Fi, c'est disponible. Aussi à l'achat de musique, On rappelle que le streaming musical suscite des préoccupations concernant sa durabilité. D'ailleurs, il y a des centres de données qui stockent et diffusent la musique qui consomme énormément d'énergie. Il devient crucial pour ces plateformes de développer des solutions plus écologiques pour réduire leur empreinte. J'ai quelques exemples. Par exemple, Spotify a remplacé ses centres de données traditionnels par Google Cloud, qui est une plateforme, comme je disais tout à l'heure, qui est neutre en carbone. Son objectif est de fonctionner exclusivement avec de l'énergie propre d'ici 2030. Oui, c'est un progrès, mais ses efforts demeurent insuffisants pour compenser entièrement les émissions de carbone générées par le streaming. Enfin, il y a des initiatives comme The Greening of Streaming, vous pouvez aller voir en ligne, qui vise à réduire cet impact environnemental en encourageant l'utilisation des centres de données plus verts et des pratiques plus durables dans l'industrie du streaming. Donc, guys, c'est important d'adapter ses habitudes de consommation musicale pour un impact environnemental plus réduit. Depuis, quand j'ai su ça, maintenant, j'ai tout téléchargé ma musique sur Apple Music, puis je fais quasiment plus de recherche via mes données cellulaires.
Ouais. Imaginons qu'il y ait des auditeurs qui sont arrivés en plein milieu de ta chronique. Comment tu résumerais ça en genre deux phrases? Genre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution miracle, c'est sûr, mais en deux mots.
OK, guys, on réduit la consommation de 4G et de 5G avec notre musique parce que la 4 et 5G consomment 23 fois plus que le réseau Wi-Fi. Mm. Fait qu'on télécharge notre musique juste avant. Après ça, on peut écouter ce qu'on veut à répétition dans notre voiture ou dans le métro, ouais. Exemple. Puis, ça consomme pas la 4G ou la 5G. Puis aussi, guys, il faut rappeler que le streaming, oui, c'est bon, mais ça consomme pratiquement autant que le plastique. Là. Fait que... ouais.
Ou alors, vous refaites votre bibliothèque musicale, puis vous rachetez tous vos hits préférés en CD.
Ben oui, moi, mon copain, il utilise encore juste des CD dans sa voiture depuis 2 ans.
Mais c'est tellement satisfaisant. Je sais que je les ai ressortis avec ma sœur, les CD, parce que, tu sais, quand c'était des gros bangers, c'était les hits des années 2000, les 2011, 2014 et tout, on les ressort et bam, c'est le concert dans la chambre. D'ailleurs, question, est-ce que vous vous rappelez c'était quoi votre premier CD? Moi, je me rappelle...
Avril Lavigne.
Ah ouais?
Oh mon Dieu.
Je crois que c'était les Black Eyed Peas.
Céline Dion.
T'es une vraie Kev, toi.
On adore. Le vieux CD qui était donné par la mère.
Mais
j'ai l'impression aussi que quand on écoute par CD, on écoute vraiment plus. Comme moi, j'ai tendance sur Spotify à juste tout le temps changer puis pas prendre le temps d'écouter de la musique.
Parlant de changer de musique. Ouais, mais parlant de changer de musique, là, on fait ça, on met un album sur Spotify ou sur Apple Music, là, puis on change. Mais à chaque fois, la chanson se télécharge et ça consomme la donnée cellulaire. Donc, guys, on fait attention à changer la musique. On écoute les CD.
Mais justement, en plus, en parlant de Spotify, moi, je vous conseille, si jamais vous êtes intéressé par justement tout ce qui est série par rapport à ce genre de sujet-là, il y a The Playlist qui est sorti sur Netflix. C'est une super série, je trouve, sur justement la naissance de Spotify. C'était à l'époque de Pirate Bay. Je sais pas si... Bon, je vais pas faire le prononcement, mais...
Ouais.
Ouais, ça date, ouais, c'est ça. Mais ça existe toujours, mais à l'époque, c'est ça où c'était les gens téléchargeaient leur musique illégalement sur des sites comme ceci. Puis en fait, ça explique toute l'histoire de Spotify, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour aller voir. Et puis ça, outre l'écologie, le domaine écologique, ça parle aussi de politique, parce qu'à l'époque, il y a énormément même d'artistes qui se sont battus justement pour ce genre de contre ce genre de plateforme là pour être pour au niveau de l'argent être vraiment considéré. Je sais qu'il y avait même une Taylor Swift qui était partie de Spotify pour justement pour lutter contre ça, pour lutter contre l'industrie musicale, tout Universal Studios, tout ça et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis ils ont, enfin moi en tout cas je suis sur Spotify là, puis ils augmentent de $3 leur abonnement.
Ouais. Donc, je sais pas, j'ai reçu le courriel aussi. Non, ça m'a mis vénère, j'étais trop deg. Vraiment, tu sais, t'as l'abonnement étudiant, j'étais toute contente, c'était pas cher, puis j'ai vu l'augmentation, j'étais, tu me niaises. Tu sais, en plus, tu parlais tantôt de, tu sais, skipper les chansons et tout. Vous êtes quel genre de personne, vous? Moi, je suis le genre de personne à tout le temps skipper les chansons.
Ouais. C'est ça, je me sens trop mal, mais je peux pas.
Tu sais, quand t'as juste une partie de la chanson qui t'intéresse, au moins avec les CD, tu peux pas.
Sinon, moi, j'ai pris une solution. Je me fais une playlist, vraiment, là, toute téléchargée. Puis même si je la skip, vu qu'elle est téléchargée, ben, au moins, ça consomme pas l'énergie, puis c'est pas super. Mais vraiment, sinon, tu te mets un album, puis tu te mets une mentalité, tu t'interdis de skipper, puis ça permet aussi d'apprendre des chansons de connaître des chansons que t'aurais jamais voulu tant écouter. Puis des fois, c'est après une minute que tu pognes la switch, que t'es comme, ah, oh, je l'aime finalement. Puis ça te fait plus découvrir.
C'est l'activité en soi, écouter de la musique, là.
Exact. Mmh.
Mais dites-nous, encore une fois, c'est quoi vos habitudes de consommation de la musique? Là, envoyez-nous un petit message sur Instagram, on est curieux de savoir. Écoutez, il est déjà 12h55 et c'est déjà l'heure de se dire bye-bye. Alors, on se quitte ici pour aujourd'hui, mais restez à l'affût pour les prochaines émissions. On a de beaux invités qui s'en viennent. Avant de se laisser, n'oubliez pas que vous pouvez toujours déposer votre projet d'émission et rejoindre l'équipe du CISM. Émission, balado, chronique. Venez jaser de ce qui vous allume avec nous ou avec d'autres émissions. Vous pouvez déposer votre candidature jusqu'au 3 novembre. Vite, vite, c'est déjà la semaine prochaine. Sur ce, vous pouvez réécouter cette émission sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur le site du CISM. Sur ce, on se dit à mardi prochain, même heure. Bye!
Bye! Bye. Bye.
Bonne journée.
Hey, 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 ici Simon Pollon-Gervais, votre animateur de l'émission « Tout et dans tout ». Votre rendez-vous musico-culturel, amical et psychotronique. On va y explorer les liens entre la musique, les artistes et le monde. C'est un rendez-vous les vendredis 10h30 jusqu'à midi sur les ondes de CISM.
Salut, c'est Sarah Toga, vous écoutez CISM.
Toutes les sorties de route ce soir mènent à toi. Le motel et la place à tes côtés sont vacants. Les jeux sont ouverts, la chance nous reçoit. Comme si on était dû pour se perdre au même endroit.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Milo.
Tu as quel âge, Milo? Et qu'est-ce que tu voudrais faire, Milo?
Ça, de la radio.
Sur CISM, il n'y a pas d'âge pour commencer la radio. L'appel de projet de CISM pour l'hiver 2025, c'est en ce moment. Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe de ta radio, envoie-nous ton démo et ton projet au plus tard le dimanche 3 novembre. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Pour plus d'infos, visite le cism893.ca à la section « Implication ».
Ah, j'ai encore mis la chaîne de la ruche.
Traduction activée.
Nouvelle de dernière minute. Votre station de radio préférée, CISM 89.3, La Marge, lancera le 31 octobre sa plateforme Patreon.
Effectivement, Nora, la station vous propose de vous abonner à sa plateforme de financement participatif. Vous aurez des balados exclusifs ainsi qu'une foulée de concours et de privilèges.
Rendez-vous le 31 octobre pour le dévoilement de la plateforme. Sur ce, nous vous souhaitons une mielicieuse journée.
Salut, ici Hawa B. Vous écoutez CISM.
Can I get a taste of your medicine? I need to forget how it feels when I sin. The rush, the excitement, the guilt and the shame. When the good and the bad looks the same.
Vous
faites des compositions originales en français ou en langue autochtone? Pour obtenir de la visibilité, gagner des prix, des bourses, faire des rencontres professionnelles et artistiques, il faut vivre l'expérience des Francouvertes. Vous avez jusqu'au 6 novembre pour vous inscrire en ligne au francouverte.com. Les Francouvertes, le concours vitrine de la diversité musicale, présenté par SiriusXM.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Stop! Haha! Vous croyez que c'est un bon vieux band de rap? Mais non, c'est Victime qui viennent de faire un live à CISM. Écoutez ça et n'oubliez surtout pas de bien toquer la bouffe.
Alex Burns, vous écoutez CISM.